Sonar urbain.
Bonjour, est-ce que tu pourrais te présenter ainsi que l'équipe de l'association?
Ok, alors je m'appelle Pierre-Louis Aubry, j'ai 19 ans, je suis coprésident de l'association Culture Glisse sur Toulouse, qui m'accompagne dans le projet, on retrouve Romain Ourdel, qui est lui le président de l'association, avec qui on a créé ce projet, donc, qui est dans le but de promouvoir et démocratiser l'univers des sports de glisse en touchant à de la glisse urbaine et de la glisse nautique. Donc on retrouve du skate, de la trottinette, du roller, du wakeboard et du wakeskate, même si en ce moment c'est pas la saison.
Du coup, quel est le but?
Promouvoir et démocratiser les sports de glisse avec une approche moins traditionnelle que ce qu'on peut avoir, dans le sens où on se fixe des objectifs pour faire progresser nos élèves, mais on s'adapte toujours à eux et pas seulement à ce que nous on a envie de transmettre. C'est une nuance assez particulière. Mais on se contente pas à l'éducation classique qu'on peut donner à des élèves. Enfin, vraiment, on s'implique vraiment et en fonction de eux, parce qu'on trouve que c'est la personnalité qui prime, en tout cas, dans les sports de glisse, parce que tout le style que tu vas amener derrière ton style de ride, c'est toi, en fait. Tu peux faire les mêmes tricks qu'une autre personne, mais par contre, le style que tu vas y apporter, tout vient de toi, et c'est pour ça que c'est important de développer cette personnalité-là que chaque personne va développer dans son style de ride.
Comment vous est venue l'idée de créer Culture Glisse à toi et à Romain?
Alors déjà, il faut savoir que depuis tout petit, je fais du skate, du roller, j'ai touché à toutes les disciplines de glisse, vraiment toutes. J'ai commencé, je devais avoir 3 ans, et en fait, j'ai toujours aimé accompagner et être accompagné, que ce soit moi avec des copains ou simplement avec des adultes qui m'accompagnaient au skatepark. J'avais toujours envie de faire essayer les gens et de leur faire comprendre que c'est trop bien ce que je fais, j'adore, c'est génial. du coup, avec l'âge, j'ai pris un peu en maturité et aussi sur une partie un petit peu plus personnelle. Le lycée, ça me correspondait vraiment pas. J'ai arrêté en première parce que je savais que le bac, j'allais rien en faire. Et en plus, je pouvais passer mon diplôme d'éducateur sportif avant mes 18 ans. Du coup, j'en ai profité, j'ai foncé, j'ai fait mon BPJEPS. Romain a le même diplôme et du coup, on a la même passion. On adore partager, on adore rider, enfin bref. Et lui faisait ses cours, moi je faisais mes cours de mon côté. Lui était à Toulouse, ça faisait déjà un moment. Moi j'étais à Pau, je venais de finir mes études. Je viens d'avoir 18 ans, j'ai qu'une envie, c'est de partir vadrouiller. On s'est rejoints et puis on a discuté du projet, on a mis tout ça en place et puis c'est parti.
Et du coup, cette association, elle a vu le jour quand?
Alors officiellement, du coup, c'est le 9 septembre 2021. En plus, j'ai regardé la date tout à l'heure.
Et du coup, vous êtes combien
Pour l'instant, on est que deux.
Vous êtes deux, c'est... et un nombre d'adhérents, du coup, vous êtes à combien?
Je sais pas du tout, parce que il y a nos adhérents qu'on voit vraiment régulièrement, et il y a ceux qui sont plus ponctuels, enfin moins ponctuels, pardon. Mais je dirais qu'on doit être 40, quelque chose comme ça. En tout, je pense, ça doit être ça.
J'ai vu qu'il y avait un aspect de développement durable. Comment ça se traduit du coup?
Ça se traduit principalement sur l'accompagnement qu'on va donner de ce qu'on peut faire nous en tant que rider, utilisateur des skateparks et en général des déplacements qu'on va avoir à côté, parce que mine de rien, nos disciplines, on peut s'en servir comme moyen de déplacement. Donc par exemple, on incite énormément à prendre des bouteilles en verre. Pour les amateurs de bière, recycler les bouteilles, il y en a plein qui sont refermables. Utiliser des bouteilles en verre, c'est mieux, que ce soit juste pour le goût, que ce soit pour la production, que ça pollue très peu. Que ce soit après, pareil, ça pollue pas du tout, du coup. Ensuite, inciter les gens à se déplacer avec leur skate, leur roller ou leur BMX, tout ça. Un moyen de déplacement qui pollue pas, du coup. À côté de ça, c'est plein de petits tips sur le moment, de trucs, d'action écolo qu'on peut donner.
Comment on fait si on veut prendre un cours?
Alors pour prendre un cours, il y a plein de moyens pour nous contacter, soit sur Facebook, soit sur Instagram. On peut nous contacter, on a nos numéros de téléphone si vous avez vu une de nos cartes dans les SketchUp toulousains. On a notre site internet cultureglisse.fr, la chaîne YouTube qui va arriver dans pas longtemps. Enfin voilà, il y a plein de moyens de nous contacter. Simplement, vous mettez cultureglisse, si vous regardez le site, vous rajoutez .fr et puis vous nous trouvez.
Et comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des prérequis pour pouvoir participer à un cours?
Alors, il n'y a aucun prérequis possible, comme je l'expliquais juste avant. Le but, c'est vraiment promouvoir et démocratiser, donc il faut toucher à tout le monde. On a mis un prérequis d'âge à partir de 3 ans, parce que les cours avant 3 ans, on peut en faire, mais ça va être plus de la motricité que vraiment faire du skateboard. Alors qu'à partir de 3 ans, on fait de la motricité, on fait de la motricité, mais la partie skateboard est beaucoup plus développée parce que l'enfant, lui, à partir de 3 ans, il sait se déplacer, il commence à être un petit peu autonome, il comprend plus facilement les consignes qu'on lui donne. Donc ça va être plus pratique, que ce soit pour nous ou pour l'enfant, de donner un cours à partir de cet âge-là. Mais sinon, tout le monde peut venir, que ce soit des skateurs expérimentés où ça fait 10 ans qu'ils font du skate, que ce soit des vieux skateurs qui n'ont pas touché leur planche depuis 20 ans, ou alors des petits, ou même, vraiment tout le monde, des personnes qui n'en ont jamais entendu parler.
Et est-ce que vous faites du prêt de matériel ou faut venir avec sa planche et ses équipements?
Alors on peut venir avec sa planche, c'est d'ailleurs quelque chose qu'on conseille énormément parce que la planche fait partie entre guillemets de l'identité du rider, parce qu'il y a tellement de petits détails sur une planche, tellement d'éléments, une planche de skate c'est 7 éléments différents. Je prends l'exemple pour le skate mais ça marche pour toutes les autres disciplines. Un skateboard, il y a 7 éléments différents. Et chaque élément, ça change tout, vraiment, que ce soit l'adhérence au sol, que ce soit la flexibilité des trucks, la largeur de la planche, sa longueur, le matériel aussi utilisé. On conseille de venir avec son matériel, mais sinon, on peut en prêter naturellement.
Où est-ce que ça se passe en ville
Pour le moment, c'est dans les projets futurs, mais pareil, on va en parler plus tard. On n'a pas de lieu... à proprement parler, où on donne les cours. On n'a pas de skatepark privé ou quoi. On utilise toutes les structures municipales qui nous sont proposées, à savoir les skateparks qu'on retrouve partout dans les villes. Par rapport au skatepark où on intervient sur Toulouse le plus régulièrement, c'est celui de Blagnac, de Pont-Jumeau, de Portet-sur-Garonne, de Saint-Aurens, et on en propose aussi certains au bol de la Cité de l'Espace. Et sinon, en dehors de ça, on fait aussi des cours à domicile. Et si certaines personnes veulent, par exemple, faire de la balade en roller, dans ce cas, on va plus aller sur des voies vertes ou des choses comme ça. Et puis, sinon, les cours, on peut même les proposer à Albi et Montauban. On est surtout concentré sur la partie toulousaine, mais c'est possible. On sait qu'on a des copains d'Albi et de Montauban qui en demandent, donc on ne vous oublie pas. Envoyez-nous un message et c'est totalement possible.
Et il y a aussi les stages sur les vacances scolaires. Est-ce que ça se passe de la même façon? Enfin, comment c'est fait?
C'est quelque chose de assez nouveau. Nos premiers stages, on va les faire pour les vacances de février. Ça va être nos premiers stages. Du coup, on est encore en train de développer tout le fonctionnement de nos stages. Mais globalement, on va vraiment se concentrer sur les enfants, du coup, mineurs, moins de 18 ans. Par exemple, pour les prochains stages qui vont arriver, on a la première semaine qui se concentre sur le skateboard, sur un public plutôt adolescent, donc à partir de 12 ans jusqu'à 18 ans. Et la deuxième semaine, on a toujours une initiation, mais en trottinette, et cette fois, c'est pour les plus petits, parce que la trottinette, de toutes les disciplines de glisse, c'est la plus accessible, que ce soit sur la motricité ou financièrement, enfin, c'est le plus accessible. Donc, deuxième semaine, on propose à partir de 5 ans jusqu'à 12 ans du coup. Et ce qui change par rapport au cours traditionnel, c'est que là on va se retrouver pendant 3 jours d'affilée où pendant 4 heures on va être ensemble et on va partager pour les plus petits ça va être peut-être plus difficile à voir, mais on va partager certaines expériences. Moi je vais coacher mes petits élèves et puis C'est ça, on va être ensemble. C'est le but aussi, c'est qu'en dehors des cours individuels, là, on est dans un groupe.
Il y a davantage un échange, quoi.
Ouais, c'est ça, beaucoup d'échanges, ouais. C'est ça. Et puis, un groupe du même âge aussi. Mmh. Pour eux, c'est mieux. Ils se défient à leur manière. On peut faire des jeux plus adaptés au public qu'on va avoir. Donc, ouais. Non, vraiment, c'est cool. C'est hâte d'essayer les stages vacances. Et puis, de développer ça et que ça soit encore mieux au fur et à mesure.
Et les cours et les stages, c'est vous qui êtes prof, qui les mettez en place ou vous faites appel à d'autres
Non, c'est nous qui les faisons. Ouais. Ouais, ouais. Du coup, en plus, c'est spécifiquement moi parce que, en gros, Romain, lui, il est aussi adhérent d'une autre association qui se passe en région parisienne. Du coup, à chaque stage vacances, lui, il monte sur Paris et moi, je me retrouve, entre guillemets, tout seul à Toulouse. Mais du coup, j'en ai profité et puis j'ai organisé tout ça parce que on en a besoin. Et puis, ça correspond vraiment au moment où les enfants sont libres pendant les vacances, où ils peuvent faire des activités. Donc, voilà. Et surtout qu'il n'y a pas de stage, par exemple, en trottinette. À Toulouse, il n'y en a pas. Je prends spécifiquement l'exemple de la trottinette, parce qu'après, il y en a en skate et en roller, il y a deux autres assos qui en proposent, mais en trottinette, il n'y en a pas, ça n'existe pas.
Les stages, ils se passent sur quel secteur, du coup ? À Toulouse même ou...
Toulouse et sa région.
Et du coup, comment tu fais pendant les vacances
Pour les vacances, du coup, c'est pour ça qu'on propose les trois premiers jours de la semaine, on est concentré sur les stages. Après les stages, je peux donner des cours. Et ensuite, les jours qui sont juste après servent pour ceux qui veulent faire des stages, mais en individuel.
Mais pour les stages, vous avez des partenariats ou des choses comme ça où vous réservez en amont dans quel skatepark vous allez le faire ou c'est en fonction de la demande des jeunes ?
Globalement, on s'adapte en fonction de la demande. Majoritairement, les gens, ils habitent à Toulouse. Donc le skatepark, vraiment au centre de Toulouse, c'est Pont-Jumeau. Tous nos stages vacances, on les propose à Pont-Jumeau. Personnellement, j'aurais aimé les faire à Blagnac parce que c'est un skatepark que j'aime énormément et pour les débutants, il est génial. Mais il y a déjà l'association Course Skate Toulouse qui est là-bas. Donc ça va se passer à Pont-Jumeau. Donc on va avoir un plus grand skatepark, c'est cool. Ça va être plus proche pour les gens. L'avantage, c'est vraiment qu'il y a tout là-bas. C'est la partie street est gigantesque, le bol est gigantesque, il y a trop de modules différents. Donc pour débuter, c'est génial.
Tout à l'heure, tu nous en as parlé un peu et est-ce que tu peux nous préciser les partenariats qu'il y a ?
On a un partenariat avec Decathlon. Qui vont nous aider pour des projets comme les stages vacances, par exemple, où ils vont nous donner du matériel pour qu'on puisse le prêter ensuite. On n'a pas spécialement d'intervenants extérieurs, en tout cas pas pour le moment. Ça va venir plus tard, on est en train de discuter déjà avec d'autres éducateurs ou même avec d'autres potentiels partenaires. Mais pour l'instant, principalement Decathlon, c'est les premiers, donc un grand merci à eux de croire en nous et de nous donner la possibilité de développer notre projet.
Du coup, comment ça se passe ? Est-ce que c'est vous qui démarchez les partenaires ou est-ce que c'est eux qui viennent vers vous
Pour les premiers, on a contacté beaucoup, beaucoup de personnes, surtout de structures sur Toulouse en lien avec la glisse. Decathlon, c'était vraiment au culot. Hein. Je suis allé les voir. Au début, c'était simplement pour leur demander si on pouvait poser des cartes dans le magasin. On pouvait pas. Mais du coup, ils m'ont dit... Par contre, si tu veux, on peut voir avec un des managers une semaine plus tard. Donc ensuite, je suis retourné les voir, on s'est présenté, on a discuté. Ils ont beaucoup aimé le projet et puis au fur et à mesure, on se retrouve là maintenant. Quoi. Donc c'est au culot.
Est-ce qu'au niveau de la mairie, il y a un soutien en tant qu'association, que ce soit financier ou matériel ?
Alors, pas pour le moment, mais il y a un mois, on a reçu... un message du maire disant qu'ils étaient contents pour notre structure et qu'ils nous souhaitaient le meilleur pour se développer. Ensuite, du coup, personnellement, on n'a pas encore contacté la mairie, donc ça viendrait de là. Oui, peut-être qu'on pourrait obtenir quelque chose de leur part. Mais sinon, non, pour le moment, il n'y a rien de spécial. Mais on pourrait.
Est-ce que tu pourrais un peu nous définir ce que c'est pour toi la scène toulousaine, la scène ride, ou nous donner un adjectif qui pour toi la décrirait au mieux ?
Globalement, la culture ride, c'est une culture qui est vachement soudée, qui n'hésite pas à aider et à communiquer. Et, on est très très soudés, on n'hésite pas à se parler entre nous et à s'encourager et donner plein de conseils pour donner le meilleur de soi. Et je dirais que c'est ce qui se retrouve à Toulouse, mais... je dirais qu'à Toulouse, et je pense principalement aux BMX et aux trottinettes, ils se donnent tous vraiment à 200% quand ils ride. Et il y a vraiment une atmosphère, je pense à Pont-Jumeau en l'occurrence, il y a une atmosphère quand les gens ride à Pont-Jumeau qui est vraiment incroyable, où tous les gens sont focus, tous les gens donnent le meilleur d'eux-mêmes et repoussent leurs limites pour toujours faire quelque chose de plus impressionnant, de plus technique. Et avoir plus de sensations, du coup, naturellement. Ça se retrouve dans d'autres skateparks, je dis absolument pas le contraire, mais à Pont-Jumeau, en l'occurrence, quand ça ride vraiment très très fort et ça se ressent, et l'atmosphère est vraiment électrique et c'est génial.
À tes yeux, au niveau des équipements publics, comme tu le disais juste avant, apparemment, ça a l'air d'aller sur Toulouse et métropole.
Alors, peut-être que je pourrais le faire croire, mais en fait, pas du tout. Clairement, les skateparks à Toulouse commencent à être très très vieux. Ils sont abîmés, il y a des trous, il y a des petits éclats partout. Il y a vraiment des structures qui sont très très dégradées à Toulouse. Il faudrait faire un plus, parce que moi personnellement, là, je viens de Pau. Pau, ils ont construit il y a 2 ans un bol gigantesque, ils ont mis 1 million d'euros dedans, 1200 m² en extérieur, là il y a la partie intérieure qui va arriver, c'est vraiment une grosse grosse structure quoi, et puis il est vraiment génial, le bol est énorme, il était censé accueillir pour 2024 les JO de skate, malheureusement ça ne se fera pas, si vous voulez savoir, ça se fera sur le Champ de Mars, dans un skatepark provisoire, bon c'est triste, mais à côté de ça, Assat, pareil, ville 15 minutes de Pau, ils ont fait un tout nouveau skatepark il y a moins d'un an. L'Escar, pareil. Hauteville, 10 minutes de Pau, ils ont fait un skatepark il y a moins de 2 ans et pareil, il est génial. Ça a été fait par des passionnés. La personne qui a organisé ce projet, c'est un gros passionné de roller. Ils ont tout designé pour ça et le skatepark est vraiment génial. L'Once, pareil, 5 ou 10 minutes de Pau, ils ont sorti un nouveau pump track là il y a 1 ou 2 mois. Le skatepark en lui-même, bon, il y a eu des petits soucis, mais ils s'en occupent vraiment super bien. Dès qu'il y a un souci, un trou ou quoi, dans la semaine, si c'est pas 2 semaines, c'est réparé. Alors que là, Toulouse, il y a tout qui est vieux. C'est impressionnant. Il y a le skatepark de Portée-sur-Garonne, je crois que c'est le plus récent. Et du coup, le mieux, franchement, ça se ressent. Mais tous les autres, Pont-Jumeau, il est super vieux, le skatepark. Blagnac, pareil, ça commence à se faire ressentir. Franchement, il faudrait qu'ils fassent quelque chose, la mairie. Puis c'est pas rien, on est de plus en plus d'utilisateurs de skate, roller, trottinette, encore plus en ce moment avec le Covid. Les gens, ils ont besoin de sortir, en plus on a pu profiter. Il y avait flou juridique, c'est pas exactement le vrai terme. Il y a une période Covid, même une longue période Covid, où on pouvait pas faire de sport, mais on pouvait se déplacer. Du coup, il y avait un flou où on pouvait faire de la trotte, du roller et du skate. Mais on pouvait pas faire de la trotte et du roller et du skate. Et les gens, il y en a beaucoup, je les ai vus, ils ont commencé le skate, même des élèves qui ont commencé à partir de là parce qu'ils trouvaient justement un moyen pour faire du sport. Enfin bref.
En plus de tout ce qui est skatepark et tout, est-ce que tu trouves pas que ça manque aussi d'événements comme par exemple le FIZ à Montpellier où tu disais à Pau aussi il y avait un événement où il y avait une expo, je sais plus quoi, en lien avec le skate, je sais plus comment ça s'appelait. Et est-ce que tu trouves qu'à Toulouse ça manque pas aussi d'événements comme ça?
C'est un peu le but des associations toulousaines justement développer ce genre d'événements. Ça se fait pas comme ça en claquant des doigts ou en le demandant, tout simplement. Faut aussi donner un petit peu de soi. Donc nous, on est là pour ça. Y a déjà des petits contests qui sont organisés, soit pour les associations. Nous, justement, on va mettre la main à la pâte et on va organiser aussi nos événements. Les associations, les skate-shops et même les skateurs entre eux, il y a plein de pages qui sont faites avec des événements qui se passent sur les réseaux sociaux, il faut aussi vachement se tenir au courant là-dessus. Donc ça se fait. Ensuite, est-ce que ça manque ? ça fait vivre. Ça, je dis pas le contraire, c'est ça qui fait vivre la discipline, c'est ça qui crée la communication entre les riders, parce que forcément, c'est des événements et du coup, il y a beaucoup de monde qui se rassemble. C'est un grand moment de partage. Ensuite, ouais, vraiment, si la question c'est est-ce que ça manque, je saurais pas dire. C'est vraiment ça aide, ça c'est sûr, mais est-ce que ça manque, je sais pas. Parce que le FIS c'est quand même vachement gros, hein. C'est l'une des compétitions internationales, c'est clairement dans les 5 compétitions internationales de glisse les plus connues au monde. Donc, ouais, bon, on peut faire des trucs sur Toulouse, mais.
Non, peut-être pas dans le FIS, mais un truc qui réunirait. Une compétition qui réunirait toutes les assos et toutes les disciplines. C'était dans ce sens-là.
Mais du coup, c'est notre but. Hein. C'est aussi pour ça qu'on touche autant de disciplines. C'est que sur tout le monde de la glisse, il y a énormément à créer. De pas seulement se renfermer que dans le skate ou que dans le roller ou que dans le BMX. C'est vraiment de s'ouvrir. Et nous, tout le monde sera les bienvenus naturellement pour faire découvrir notre passion et la transmettre, quoi.
Alors, tu parlais de la popularisation grâce à ce flou juridique Covid.
Ouais, c'est pas directement grâce à ça, mais oui.
Mais il y a en partie, quoi. Et est-ce que tu penses aussi que ça pourrait venir du fait que le BMX freestyle et le skate sont rentrés au JO ?
Alors ça, c'est sûr et certain. Déjà, juste... Bon, là, je vais parler de Cabreton, de Osgore et de Senios qui ont mis un billet mais monstrueux pour développer la scène surf et skateboard là-bas, justement avec l'arrivée des JO. D'ailleurs, petit coucou à Osgore hein, qui, eux, en l'occurrence, ils voulaient vraiment accueillir en 2024 la discipline surf, mais malheureusement, ils se le sont fait prendre, je sais plus si c'est La Réunion ou... Je sais pas quelle île française. Enfin, en tout cas, c'est en Outre-mer. Du coup, pour suivre, du coup, ça, en fait, il y a des structures qui sortent de terre de partout. Pau, c'est pareil. Hein, ils les voulaient, les JO de skate à Pau. Mais ils les ont pas eu. Du coup, ça sort. Forcément, ça fait du bruit. Les gens en entendent parler. Ça donne envie. En plus, il y a une campagne totalement marketing qui est gigantesque. Donc, on en voit partout du skate. Donc ouais, ça aide à fond. Et même je pense les disciplines additionnelles, d'ailleurs qui ne sont plus additionnelles, c'était additionnel en cette année, mais ça ne l'est plus en 2024, ça devient officiel. L'escalade, le surf, le skateboard et le BMX, c'est génial, c'est vraiment génial. Parce que personnellement, je trouve qu'il y en a marre des disciplines. J'adore la gym, hein, j'ai rien contre vous. Mais il y en a marre des disciplines où si tu fais pas comme ça, t'es jugé parce que c'est pas bien, parce qu'il faut faire comme ça. Les disciplines skate, BMX, escalade et surf, c'est des disciplines où on va être noté sur le style et la personnalité qu'on donne dans la discipline. Certes, on va être mieux noté si on fait des triches plus techniques, mais ça, c'est d'accord. Mais être noté moins bien parce qu'on a notre poignet qui est baissé, à la fin de la figure, je suis désolé, mais... Voilà quoi. Donc ça fait du bien de voir des disciplines vraiment freestyle où les gens donnent de leur personnalité et ils sont notés sur leur style et pas sur des prérequis comme je disais juste avant.
S'il te plaît.
Alors, je m'appelle Kevin, j'ai 26 ans, je viens de Toulouse, depuis tout petit je suis sur Toulouse, et je fais de la trotte depuis 14 ans maintenant.
Est-ce qu'il y a un rider ou une personne en particulier qui t'a inspiré ?
À la base non, puisque quand j'ai commencé j'étais tout seul en trotte à Toulouse, j'étais que avec des skates et des BMX, donc c'est plus eux qui m'ont inspiré sur les premières figures, et puis après, dès que j'ai découvert que sur internet il y avait des vidéos, il y a notamment Ryan Williams qui m'a inspiré, il est très connu, regardez sur internet. Principalement lui, et après il y a pas mal de riders qui m'inspirent depuis.
Quel est le premier trix que tu es rentré ?
Le premier trix, je pense que c'est un 180. Je pense que c'est le plus simple, c'est juste après savoir sauter tout droit. C'est quand on tourne un demi-tour, c'est le plus simple après, c'est la première.
Quelle a été ta première compétition?
Alors, c'était pas vraiment une compétition, mais c'est là où j'ai eu mon premier sponsor, c'était à La Roseraie. Il y avait un événement de VTT. Il y avait aussi une petite mini où il y avait des skates, et donc là j'ai commencé à rouler, et donc ils m'ont dit de faire une démo. Donc c'était pas vraiment une compétition, mais c'est vraiment le premier événement que j'ai fait en trot. Et après la première compète, je pense que c'était à Marseille, il y a bien 10 ans.
Et tu te souviens du nom du
Je crois que c'était... Non, je me souviens plus du nom. Mais je sais que c'était au Palais de la Glisse à Marseille, mais j'ai plus le nom. Okay. Et sinon, pour la vraie grosse compétition, ouais, c'était le FIS, je pense le premier FIS trottinette. Ouais, c'est le plus connu.
Et du coup, quelle est la compétition à laquelle tu rêverais de participer?
Je pense pas qu'il y ait une compétition à laquelle je rêverais de participer, parce que je suis pas non plus trop axé compétition. La trotte, c'est vraiment plus un sport... On s'exprime quand même plus à travers les vidéos, les photos, c'est plus de l'image au final que vraiment de la compétition. Il y a des riders qui ont plus d'esprit de compétition, moi je l'ai pas tant que ça. On va dire que ce serait plus aux États-Unis les street jams, qui font pas vraiment des compétitions, mais c'est des gros rassemblements dans la rue et chacun s'exprime comme il veut. Je suis pas trop tourné compète quoi.
Le coup d'arrêt forcé dû à la crise sanitaire, est-ce qu'il t'a permis de travailler de nouveaux tricks?
Pas forcément, puisque quand c'est arrivé, je travaillais chez Decathlon et ça a strictement rien changé. On a continué à bosser, sauf le premier confinement strict, mais bon, on pouvait pas trop rider. Et après, sinon, je travaillais au même taux horaire, donc ça n'a pas changé grand chose pour moi, si ce n'est que je pouvais un peu moins bouger à droite à gauche. Mais ça m'a pas donné de coup de boost pour la trotte, quoi.
Comment est-ce que tu es devenu pro dans la discipline?
Alors. Pro, c'est un bien grand mot, je pense, parce que ouais, voilà, pro, je vis pas avec, mais je pense que c'est parce que j'étais au début un des seuls, en tout cas comme j'ai commencé dans l'un des premiers, mais forcément à Toulouse, en tout cas je me faisais un peu plus repérer, donc c'est là où j'ai eu mon premier sponsor à la compète justement de VTT, c'était une petite marque de vêtements, et après vraiment sponsor matériel, c'est la première compétition justement à Marseille où j'y suis allé avec une marque, la marque Oxelo, la marque de chez Decathlon. Et de là, ils m'ont dit qu'ils me prenaient dans l'équipe et c'est comme ça que ça s'est enchaîné quoi.
Tes sponsors actuels, c'est quoi?
Alors bah du coup j'ai arrêté Oxelo il y a 2 ans pour aller de faire une marque un peu plus petite, mais qui est faite par des riders pour des riders, qui s'appelle Wise Scootering. C'est quelqu'un de Paris qui l'a créé il y a 10 ans, et là on est une petite équipe, on doit être une dizaine. Je suis quand même plus heureux aujourd'hui chez Wise que chez Oxelo parce que je donne un peu plus mon avis sur le matériel et le matériel surtout est plus adapté à ce que je fais.
Est-ce que tu peux nous expliquer justement le processus du sponsoring? Comment ça marche?
Bah, le sponsoring, c'est du donnant-donnant, c'est-à-dire qu'on prête un peu notre image, surtout sur les réseaux sociaux principalement. On fait la promotion de la marque, c'est-à-dire que moi quand je fais skatepark, souvent, il y a quand même des riders qui me demandent bah, qu'est-ce que tu rides comme matériel, je leur fais essayer. Donc voilà, on participe à ça, il y a ça. On va créer le contenu aussi pour la marque, c'est-à-dire qu'on va faire les vidéos, on va faire des photos, on va alimenter un peu l'image de la marque. Et aussi, il y a la partie un peu plus technique où on va vraiment donner notre ressenti sur le matériel, donner notre avis sur les prochaines trottinettes. Et en échange, bah, on a du matériel gratuit, ce qui est quand même pas mal, puisque c'est quand même un budget quand on casse du matériel. Et surtout, bah, ça donne l'opportunité aussi de voyager pour faire les images.
Mais du coup, est-ce que c'est toi qui vas démarcher les marques ou c'est les marques qui en fonction?
Ça dépend. Mon premier sponsor, c'est lui qui est venu vers moi, par exemple. Et le deuxième, c'est plus moi qui avais envoyé un mail pour dire que j'étais disponible, que j'étais intéressé par leur matériel. Donc ça dépend vraiment des marques, du besoin des marques. Je pense que c'est aussi des besoins des riders. Mais c'est plus en se faisant connaître sur les réseaux après que ça attire forcément les marques.
Comment tu vois ton avenir du coup?
Alors, honnêtement, je ne vois pas forcément. Je ne suis pas quelqu'un qui regarde très loin. Là, je vis plutôt entre guillemets au jour le jour. Puisque j'ai laissé tomber mon travail il y a quelques mois pour justement... passer un peu plus de temps sur ma trottinette. Je sais que c'est pas des sports où on dure longtemps, entre guillemets. Je sais que vers 30-35 ans, bah, j'aurai pas forcément la même énergie ou le même engagement qu'aujourd'hui, mais j'aimerais bien quand même continuer à rester dans ce monde-là et pourquoi pas travailler dans la trotte, quoi. J'en aiderai toujours, mais peut-être pas au même niveau.
Tout à l'heure, tu nous parlais des réseaux sociaux.
Ouais.
Est-ce que la visibilité donnée par les réseaux, elle t'a permis de devenir pro ou sponsor plutôt plus facilement ?
Oui, forcément. Alors, au départ, non, parce que mon point sponsor, c'était le tout début des réseaux sociaux, donc c'était pas tellement important. C'était plus l'image en général qu'on donnait dans les skateparks, tout ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vraiment que les réseaux sociaux qui font que le sponsor, la renommée aussi, les vidéos, le YouTube, tout ça. Mais c'est principalement les réseaux sociaux qui attirent les sponsors et c'est le lien qui fait qu'on communique avec les riders ou les futurs acheteurs de la marque, quoi.
Et est-ce que, dans l'autre sens, les sponsors, ils permettent d'avoir plus de visibilité
ou... Ouais. Bon, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu donnant-donnant. C'est-à-dire que, d'un côté, nous, on va leur apporter aussi des followers et un peu plus de visibilité, mais d'un autre côté, d'être chez un sponsor, forcément, ça donne aussi plus de visibilité à sa propre page. Donc, oui, je pense que ça aide pas mal. Ouais.
Tu penses que la trotte, c'est un sport accessible à tout le monde ?
Ouais. Ouais, je pense que c'est même peut-être plus accessible que certains sports qui peuvent faire un peu peur au début, comme le skate ou le BMX, où ça demande quand même beaucoup de temps pour apprendre les premières figures. En trotte, c'est un peu différent, c'est assez facile à prendre en main la première fois. Les premières figures sont assez faciles, et c'est plus quand on va dans le plus technique, où pour moi, après, ça redevient au même niveau que les autres sports, en termes en tout cas de difficulté et de temps passé sur la trotte. Mais c'est assez accessible au début, ouais. C'est pour ça qu'en général, en tout cas au début, c'était quand même des riders assez jeunes dans le sport.
Est-ce que tu penses que la trottinette, au même titre que... c'est quoi qui est rentré au JO ?
Le skate BMX, le skate, ouais.
Est-ce que tu crois que ça pourrait...
Alors je pense qu'avec le temps, oui, mais c'est vraiment pas pour tout de suite, puisqu'on n'est pas encore... c'est pas encore un sport qui est très encadré. On est affilié à la fédé de roller, il me semble, donc on n'a même pas notre propre fédé. Et c'est encore assez jeune comme sport. Je pense que ça a commencé aux alentours des années 2000 vraiment à partir, alors que le skate, ça fait déjà 20-30 ans que c'est bien implanté, même beaucoup plus que ça. Et après, je pense pas que ce soit non plus un objectif. Enfin, en tout cas, moi perso, je le vois pas comme un objectif que ça rentre au JO, puisque c'est un peu comme la même polémique avec le skate. C'est d'un côté, pour moi, c'est vraiment pas des sports où la compète, c'est la première motivation. Il continuera à avoir des grosses vidéos, des choses comme ça. Et s'il y a les JO, oui, peut-être ça donnera un peu plus de visibilité au sport, mais c'est pas essentiel au sport.
Merci.
Merci à vous.
Retour avec Pierre-Louis pour Culture Glisse. Ben maintenant, on va passer au projet. Est-ce que vous avez des projets de locaux, genre des bureaux ou de skatepark?
Alors, le but de Culture Glisse sur le long terme, ce serait qu'on soit un espace qui puisse accueillir absolument tout le monde pour qu'il puisse s'exprimer et se développer sans qu'il soit limité. Et ça, bien sûr, dans le monde de la glisse et dans le monde freestyle. D'ailleurs, c'est le projet... Sur vraiment le long terme, on compte ne plus se restreindre à la glisse, mais aussi se développer dans le freestyle. Bon, ça, vraiment, c'est sur le long terme. Mais ensuite, ouais, on aimerait avoir nos propres locaux où on va pouvoir accueillir et aider les riders à créer. Déjà, à se développer dans ce qu'ils font, être meilleur dans le skate, trot, bref, tout ça, le roller skate. Mais aussi dans le contenu qu'ils vont pouvoir créer, parce que... nos disciplines, on communique énormément via les réseaux sociaux. C'est des disciplines qui sont assez jeunes, où on fait beaucoup de photos, on fait beaucoup de vidéos. Le sport, ça tourne autour de ça, hein, vraiment. Ça vit grâce à ça. On n'a qu'à voir sur Instagram, TikTok, YouTube, les formats réels très, très courts, ou alors les shorts sur YouTube, ça marche extrêmement bien. Et on voit beaucoup, 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 beaucoup de sport. Parce que du coup on a une visibilité très simple, donc nous ça va être aussi l'idée là-dessus, c'est que même dans la création vidéo, photo, on va aider les riders qui vont venir chez nous et vraiment le meilleur moyen de s'exprimer quoi, c'est ça en fait.
Du coup, est-ce que tu peux nous redire où est-ce qu'on peut vous retrouver?
Du coup, sur le site internet cultureglisse.fr, sur Instagram, sur Facebook, Ou sinon, par téléphone, 06 95 91 72 29. Vous m'appelez, vous m'envoyez un message, vous me faites une vidéo, vous m'envoyez ce que vous voulez. Et je vous répondrai. Et puis sinon, avec de la chance, dans les skatepark toulousain.
Après, j'ai vu aussi que vous aviez un Eloasso.
Oui.
Alors, est-ce que ça, c'est pour la prise de rendez-vous ?
Alors, la page Eloasso, elle nous servait pour une offre qu'on a chez Decathlon, où en gros, pour l'achat d'un skate ou une trottinette ou un roller, plus un pack de protection, nous, on offre une heure gratuite. Comme ça, on peut accompagner les gens. Ils se retrouvent pas face à un skate et ils savent pas quoi faire. Du coup, nous, on est là pour les accompagner sur leur premier pas.
Est-ce que vous êtes à la recherche de bénévoles ou de personnes qui pourraient vous aider au sein de l'association ?
Oui, franchement, on est ouvert à toute aide extérieure. Et même particulièrement en trottinette. Et on est en train de chercher un éducateur sportif spécialisé en trottinette. Donc, à l'occasion, n'hésitez pas. Si vous rentrez dans cette catégorie-là, pareil, vous m'envoyez un message. Vous pouvez en donner juste avant. Mais sinon, ouais, de tout, mais vraiment, hein, ça peut être juste quelqu'un qui fait du dessin et qui a envie de donner une touche artistique, qui veut faire des petits croquis ou quoi, de n'importe quelle manière, que ce soit photographe, que ce soit des riders qui nous donnent leur avis, que ce soit, enfin, vraiment de tout. On ne sait pas à quoi on peut s'attendre, donc si vous avez quelque chose à proposer qui pourrait avoir sa place chez Culture Glisse, envoyez-nous un message et puis on voit ce qu'on peut faire ensemble.
Est-ce qu'il y a des riders qui t'ont inspiré ?
Forcément. En roller, je vais citer Diaby Diaco, c'est un Français super bon, mais c'est parce que j'ai ridé avec lui quand j'étais petit. En skateboard, Edouard Amestoy, qui lui, il fait de la vert rampe. C'est un super beau gosse, trop fort en skate, qui a une vie de ouf. Personnellement, j'ai toujours été inspiré par les mecs qui faisaient de la vert rampe, parce que les gars, ça s'envole littéralement 2 mètres au-dessus d'une rampe qui elle-même est déjà à 4 mètres de haut. Ils font des 3-6, des backflips, des grinds, on sait pas d'où ça sort, ni de quelle planète ils viennent. Et en dernier, je pourrais dire Takeshi Yasutoko. D'ailleurs, j'ai fait une publication il y a pas longtemps sur Instagram expliquant qui c'est un rider japonais. Allez voir. Faut vraiment que vous alliez voir ce mec, il vient pas de cette planète.
Est-ce que tu aurais un petit mot pour la fin ?
Croyez en vous et n'arrêtez jamais d'apprendre.